Europe 1. Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Bienvenue au cœur de l'histoire. Certaines héroïnes de la guerre de 14-18 nous sont bien connues. Marie Curie, qui créa les petites curies, des ambulances équipées d'appareils à rayons X pour repérer les fractures et localiser les éclats d'obus. Sarah Bernhardt, bien sûr, amputée d'une jambe en mars 1915, elle alla sur le front encourager nos soldats, hissée sur une chaise, ce qui lui vaudra dans le rang des poilus le surnom de « Mère Lachaise ». Marie Marvin, dite Marie Cascou, à la fois pilote et infirmière, qui reçut la Croix de guerre 14-18 et la Légion d'honneur. Citons enfin l'infirmière anglaise Edith Cavell, première martyre de la guerre de 14, fusillée par les Allemands le 11 octobre 1915 pour avoir permis à des centaines de soldats alliés de fuir la Belgique pour la Hollande, alors pays neutre. Mais Bertha von Suttner, Nicole Girard-Mangin, Suzanne Noël, Émilienne Moreau, Charlotte Malter, femmes pourtant admirables, n'ont pas connu la même postérité. C'est donc à elle que j'ai souhaité rendre hommage dans ce nouvel épisode en deux parties. Nous avons quitté Suzanne Noël le jour de l'armistice. Après-guerre, Suzanne s'implique dans la défense des droits des femmes en fondant en Europe le club Soroptimiste, inspiré d'un mouvement féministe dont elle a rencontré des représentantes au cours d'un voyage aux États-Unis. Elle en lance, le 24 janvier 1924 à Paris, une version française dont la première revendication est le droit de vote. Sur sa lancée, elle suscite la création de clubs soroptimistes dans l'Europe entière. Cet élan est hélas interrompu par la Seconde Guerre mondiale. Suzanne reprend alors du service, mais différemment. Alors qu'en 14-18, elle s'était échinée à rendre leur visage aux gueules cassées, durant la Seconde Guerre, au contraire, elle opérera des résistants recherchés par les nazis pour les rendre méconnaissables. Après elle, retrouvons maintenant une autre héroïne des deux guerres, Émilienne Moreau. Si son nom mérite ô combien d'être tiré de l'oubli, c'est que cette femme courageuse, à l'instar de Suzanne Noël, mais cette fois armes à la main, fut à la fois une héroïne de la Première Guerre mondiale à seulement 17 ans et 20 ans plus tard, compagnon de la Libération pour son action dans la Résistance. Émilienne est née en 1898 à Vingles, dans le Pas-de-Calais, dans une famille de 4 enfants. Son père est un mineur en retraite. Il a alors 50 ans et a travaillé 38 ans à la mine comme porion. Un porion, dans une mine, c'est un contremaître. En juin 1914, il ouvre une petite épicerie-mercerie à Los en Goëlle, à quelques kilomètres de Lens. En août 14, la guerre est déclarée. Bientôt, les troupes allemandes occupent la ville. Émilienne crée dans une cave une école improvisée pour les enfants de Los. Alors que Los est occupé depuis un an, les Britanniques, un régiment écossais en fait, tentent de reprendre la ville. Une grande offensive a lieu en ce sens le 25 septembre 1915. Et c'est alors qu'au péril de sa vie, Émilienne se porte à leur rencontre pour leur donner des indications sur les positions de l'ennemi. Durant la bataille, elle organise un poste de secours dans sa maison avec l'aide d'un médecin écossais. Plus courageux encore, elle-même prend les armes et, munie d'une grenade et d'un revolver, abat 4 soldats allemands embusqués. L'offensive est un succès, la ville est reprise par les Britanniques. Aussitôt, Émilienne, qui rappelons-le, n'a que 17 ans, devient l'héroïne de Los. Le 27 novembre 1915, elle est décorée de la Croix de guerre avec palme à Versailles, elle est reçue par le président de la République Raymond Poincaré, puis à Londres par le roi George V. On utilise alors son image pour entretenir le moral de la population et des troupes. Ses mémoires, le mot est un peu fort pour une adolescente de 17 ans, sont publiées fin 1915 par la presse française et britannique. Ce qui est terrible d'ailleurs dans son récit, c'est qu'elle y écrit que son rêve dans la vie est de devenir institutrice et que si ce rêve se réalise, elle enseignera à ses élèves la haine des Allemands, peuple impardonnable. Elle va même faire l'objet d'un film de 1916 intitulé « The Joan of Arc of Loss », la Jeanne d'Arc de Loss, réalisé en Australie. Selon ses vœux, Émilienne Moreau termine la guerre comme institutrice dans une école de garçons à Paris. Après-guerre, elle se marie avec un militant SFIO, la SFIO c'est le Parti Socialiste. Elle devient une militante très active et y continuera son engagement longtemps après la guerre et d'ailleurs jusqu'à sa disparition en novembre 1971. Arrive la Seconde Guerre mondiale. Les Allemands la mettent sous surveillance car ils savent que c'est un personnage symbolique de la victoire des Français pendant la Grande Guerre. Cela n'empêche pas Émilienne d'entrer dans la résistance avec son mari. Il distribue des tracts et des journaux clandestins. Elle transporte des fonds. Elle effectue plusieurs missions pour les Alliés, échappe à plusieurs reprises à des arrestations et parvient à rejoindre Londres le 7 août 44, après quoi elle intervient régulièrement sur la BBC. Incarnation de la résistance française féminine, Émilienne Moreau est l'une des 6 femmes à être faite compagnon de la libération et décorée par le général de Gaulle en personne en août 45 à Béthune. Si j'ai choisi Émilienne Moreau, c'est justement parce qu'elle fait le lien entre les deux guerres. C'est précisément ce qu'a choisi de faire notre président de la République en choisissant la date du 11 novembre pour procéder à l'inhumation au Mont-Valérien du dernier compagnon de la libération. En effet, c'est le 11 novembre 1945 qu'étaient inhumés au Mont-Valérien les 15 corps de combattants choisis afin de symboliser la participation victorieuse de la France à la Seconde Guerre mondiale. La brève allocution prononcée par le général de Gaulle à l'Arc de Triomphe le 11 novembre 1945 commençait en ces termes.
« Mort pour la France, mais triomphant comme elle, tombé sur tous les champs de bataille, où soit dans la lumière, soit dans l'ombre s'est joué notre destin. » Ramenés par tous les chemins de nos douleurs et de notre victoire, voici donc ces morts revenus.
Le 11 novembre 2021, la présence du corps d'Hubert Germain, dernier compagnon de la Libération à l'Arc de Triomphe, puis son transfert et son inhumation au Mont-Valérien, renvoyait à ce 11 novembre 1945. Ainsi, les morts des deux grandes guerres seront-ils associés à jamais dans un même hommage ? Et dommage, justement, il sera encore question maintenant avec l'évocation d'Anna Guérin et Charlotte Malter, les deux promotrices françaises des fleurs du souvenir combattant, le poppy, coquelicot britannique, et le bleuet de France. À Paris, face à l'Hôtel National des Invalides côté Esplanade, se trouve le rond-point du bleuet de France. Et s'il se nomme ainsi, c'est parce que l'idée de vendre des bleuets en papier réalisés par des blessés de guerre au profit des mutilés et des orphelins et veuves de guerre est justement née à l'Hôtel des Invalides au lendemain de la guerre de 14. Elle fut l'initiative de deux infirmières aussi dévouées qu'inventives. D'abord Charlotte Malter, fille et femme de soldats, dont le père le général Niox est alors directeur du musée de l'armée et commandant de l'hôtel des Invalides, et le mari, le général Malter, est lui-même un grand mutilé de guerre, blessé au bras et amputé de la jambe droite dès septembre 1914. Charlotte a déjà 47 ans lorsque la guerre éclate. Avec son amie Suzanne Lénart, infirmière-major, veuve d'un capitaine d'infanterie coloniale tué en 1915, Charlotte a donc l'idée d'aider les blessés à se reconstruire et à collecter un peu d'argent en leur faisant confectionner des fleurs dont les pétales seront en tissu et les étamines en papier journal. Quoi de mieux qu'une fleur pour symboliser la renaissance après des années dominées par la mort ? Les Anglais ont d'ailleurs déjà choisi la leur, le coquelicot ou poppy, en référence au poème « In Flanders Fields » sur les champs de Flandre du lieutenant-colonel canadien John McCrae. Refleurissant après les combats sur les sols les plus ravagés, le fragile coquelicot évoque par sa couleur le sang des soldats morts au champ d'honneur. Et c'est encore une Française, une certaine Anna Guérin, qui a eu l'idée de promouvoir le coquelicot d'étoffe comme symbole du souvenir combattant. Née Anna Boulle le 6 février 1878, dans une famille paysanne des Cévennes ardéchoises de tradition protestante, elle devient institutrice à Madagascar, où elle a suivi son premier mari, un ancien militaire reconverti dans la vente de pierres et de métaux précieux. Elle se sépare de lui en 1907, se remarie 2 ans plus tard. Quand la guerre éclate, son second mari Eugène Guérin ayant été appelé sous les drapeaux, Anna Guérin confie ses 2 filles à sa famille et se rend à Londres, puis à New York, pour enseigner au sein de l'Alliance française. Anna Guérin était une passionnée d'histoire. Quand elle était enseignante en Angleterre, elle avait pour habitude, lorsqu'elle donnait un cours d'histoire, de se vêtir du costume du personnage dont elle entendait raconter le parcours. Ainsi, ses élèves la découvraient-elles en Jeanne d'Arc, Marie-Antoinette ou Joséphine de Beauharnais, dont elle racontait la vie avec passion. À New York, dans les débuts de la guerre, elle prend pour habitude, raconte Claude Vigoureux, son biographe, de reverser la moitié de son salaire à la Croix-Rouge pour venir en aide aux orphelins de guerre français. Et bientôt, elle passe à la vitesse supérieure. Vêtue d'un tailleur coupé dans de la toile bleu horizon des capotes militaires françaises, elle entreprend de sillonner les États-Unis pour sensibiliser le public américain au sort des enfants et de toutes les victimes de guerre. Cette infatigable militante de la cause des plus faibles est saluée en 1917 par la presse américaine comme la plus célèbre française d'Amérique. Retrouvons Claude Vigoureux, il écrit.
Après l'armistice, Anna Guérin crée la Ligue interalliée des enfants, patronnée par l'État français, et elle adopte comme insigne la fleur de coquelicot mise à la mode aux USA par une responsable des jeunesses chrétiennes protestantes, YMCA, Moïna Michael. De retour à New York au printemps 1919, elle aura traversé 9 fois l'Atlantique depuis le début de la guerre, Madame Guérin reprend ses tournées, qui deviennent des meetings en faveur des emprunts de la reconstruction, en plus des victimes de guerre. Le 8 octobre, à Baltimore, la Dame de France appelle à l'adoption universelle du coquelicot, le poppy, comme symbole du souvenir combattant. Et pour alimenter ses collectes financières, elle fait fabriquer des fleurs en soie en instaurant des poppy days partout où elle passe.
Pour les Français, la fleur du souvenir sera le bleuet. Pour toutes sortes de bonnes raisons, parce que le bleu horizon est la couleur de leur uniforme et la première couleur du drapeau français, mais aussi parce que bleuet est le sobriquet dont les poilus aguerris affublaient les nouveaux venus sur le front. Tout comme le coquelicot, le bleuet est la première herbacée à refleurir sur la terre dévastée par les obus. En 1920, il devient officiellement la fleur du souvenir. De sorte qu'en 1925, Charlotte et Suzanne créent un véritable atelier au sein des Invalides. C'est cependant le 11 novembre 1934 qu'a lieu la première vente sur la voie publique de milliers de bleuets fabriqués par les anciens combattants. Ce jour-là, 128 000 fleurs sont vendues. Aussi, dès l'année suivante, la vente de bleuets du 11 novembre devient officielle. En 1957, l'État décidera de créer un second jour de collecte, tous les 8 mai, date anniversaire de l'armistice de la Seconde Guerre mondiale. Au fait, l'Allemagne, elle aussi, a sa fleur du souvenir, le Fergus Meinicht, Myosotis alpin blanc, qui symbolise la paix et dont le nom signifie « ne m'oublie pas ». Ce souvenir, c'est bien de cela qu'il s'agit avant tout. Bleuets, poppies ou myosotis, chaque année, selon l'admirable formule de Jean Cocteau, l'éphémère éclosion de ces fleurs de papier rappelle à chacun d'entre nous que le vrai tombeau de l'homme, c'est le cœur des vivants. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, parlez-en autour de vous et faites-moi part de vos commentaires sur le groupe Facebook Au cœur de l'histoire. Je vous lirai, je vous répondrai. Ce podcast est une création Europe 1 Studio. J'écris l'épisode que vous venez d'entendre. La réalisation est signée Julien Tarot. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou la plateforme sur laquelle vous écoutez habituellement vos podcasts. Je vous retrouve bientôt pour un nouveau récit au cœur de l'histoire.